Bienvenue dans The Debate, notre espace de confrontation d'idées et d'analyses intellectuelles croisées. Vous savez, généralement, quand on se casse un gras et qu'on le met dans le plâtre, on a tout de suite cette impression de sécurité.
Le dissident.
Ouais, on se sent protégé.
C'est ça, le plâtre est là, il est bien solide et la guérison opère de manière totalement invisible.
Mais, au bout de 6 semaines, quand le médecin prend sa scie et découpe enfin la résine...
Le A.
Eh ben, le bras est toujours là, oui, mais il a radicalement changé. Le muscle a littéralement fondu.
Exactement.
Il est physiquement diminué, je dirais même presque étranger à notre propre corps.
Absolument, il est visiblement atrophié.
La structure osseuse est réparée, le travail de fond a été fait, mais le simple fait de soulever une tasse de café demande soudainement un effort colossal. Enfin, presque insurmontable, quoi.
Ouais.
La force est évaporée par le simple fait de ne pas l'utiliser. Et aujourd'hui, nous allons examiner l'équivalent intellectuel de ce plâtre médical, appliqué non pas à nos os, mais à nos esprits. Le sujet de notre débat aujourd'hui porte sur notre relation à l'intelligence artificielle, le dissident. Mais pas sous le prisme habituel, attention, hein. Non, pas du tout comme une menace existentielle lointaine, du style extinction de l'humanité, non. On va en parler comme d'un vecteur silencieux de ce que les chercheurs appellent la dette cognitive. L'enjeu fondamental, la question qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est comment fixer les limites de l'IA au quotidien pour maintenir un véritable contrôle humain sur nos processus et surtout sur nos propres cerveaux. Pour ma part, je défends l'idée que cette atrophie est une régression biologique réelle qu'il faut limiter strictement, le dissident. Et pour le coup, c'est véritablement le cœur du problème aujourd'hui. Et moi, je soutiens que cette dette n'est pas une fatalité neurologique, mais un échec d'organisation pur et simple. La question n'est plus de savoir si l'IA va nous remplacer d'un seul coup, genre film de science-fiction, mais de comprendre la nature exacte de ce déclin quand on travaille en tandem avec elle.
C'est ça.
Le dissident, le débat qui nous anime, au fond, c'est est-ce qu'on est face à une atrophie neurologique inévitable dictée par la technologie elle-même ou, et c'est ma position, est-ce que c'est juste le symptôme d'une délégation organisationnelle profondément défaillante ? Eh bien, pour moi, la réponse penche très clairement d'un côté. Je suis persuadé que l'intelligence artificielle engendre intrinsèquement une atrophie mesurable, tangible et surtout très rapide de nos capacités cognitives.
Le dissident.
Une vraie régression biologique donc ?
Oui, c'est une forme de régression biologique et il faut impérativement la combattre.
Par une limitation très stricte de son usage, le dissident.
D'accord.
Mais moi je l'aborde sous un angle tout à fait différent. Je suis convaincu que cette fameuse dette cognitive, c'est absolument pas une fatalité inhérente à l'outil.
Ah bon ?
Non, il s'agit en réalité d'un simple échec structurel de notre méthode de délégation. C'est un effondrement managérial ni plus ni moins, qui peut et qui doit être résolu par un design beaucoup plus exigeant de nos processus décisionnels. Eh bien, laissez-moi vous montrer pourquoi je considère cette atrophie, non pas comme une simple théorie, mais comme une réalité clinique. C'est pas juste une métaphore de salon, hein. Regardons l'étude menée par le MIT Media Lab au printemps 2025.
L'étude sur GPT-T ?
Oui, la fameuse étude « Your Brain on GPT ». Une étude fascinante. Les chercheurs n'ont pas juste posé des questions aux gens, ils ont carrément placé 54 participants sous électroencéphalogramme direct pendant des séances d'écriture.
Le dissident, d'accord.
Ils ont divisé ces personnes en 3 groupes. Le premier écrivait sans aucune assistance, le deuxième avec un simple moteur de recherche classique et le troisième avec une IA générative avancée. Et le résultat est implacable. Il est mesurable sur les écrans. La connectivité cérébrale décroît à mesure que le niveau d'assistance augmente.
Le dissident, donc si je vous suis bien, le cerveau s'éteint partiellement, c'est ce que vous dites ?
Absolument. Le cerveau du groupe assisté par l'IA présentait l'engagement neuronal le plus faible des 3. L'activité de synthèse, de mise en relation des concepts s'effondrait complètement.
Le dissident. Ça baisse drastiquement, oui.
C'est ça. Mais le détail qui me frappe le plus, la vraie preuve irréfutable de cette dette cognitive, c'est qu'à la fin du test, 83% des utilisateurs du groupe IA se sont montrés absolument incapables de citer ne serait-ce qu'une seule phrase du texte.
Le dissident. Attendez, 83% n'ont retenu aucune phrase.
Même pas le concept principal ou la structure de ce qu'ils venaient d'écrire. Rien du tout. Le vide absolu. Le désengagement critique est total parce que rien ne s'est imprimé dans leur esprit. Et il faut vraiment comprendre le pourquoi de ce phénomène. En neurosciences, il y a un concept super connu. Notre cerveau est un avare cognitif.
C'est-à-dire qu'il économise l'énergie ?
Exactement. Il est biologiquement programmé pour économiser son glucose. Si vous lui offrez un chemin de moindre résistance, genre une IA qui écrit un paragraphe parfait en 2 secondes, il ne va pas dépenser d'énergie pour lire activement, analyser et mémoriser l'information. Le dissident, je vois, Imaginez la scène dans un bureau aujourd'hui. Un employé demande à l'IA de résumer un dossier pour une réunion. Il parcourt le texte des yeux, trouve que ça a l'air professionnel et il valide. À 14h, lors de la réunion, son patron lui pose une question hyper précise sur la page 2 du résumé.
Et là, c'est le drame. Et là, c'est la panique. Il y a un blanc. La délégation à l'IA provoque un effondrement de la capacité d'assimilation, exactement comme ce bras immobilisé dans le plâtre au début de notre émission. On emprunte la facilité à l'instant T et on rembourse cette facilité en capacité amoindrie le lendemain.
Oui, je vois très bien la scène que vous décrivez. C'est une situation que beaucoup ont dû vivre, hein. Mais je suis désolé, je n'achète pas votre conclusion. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Je vous écoute.
Vous pointez du doigt le cerveau de l'individu, sa physiologie. Mais votre erreur, c'est d'imputer cette perte de substance à la technologie elle-même, alors qu'il faudrait observer le cadre organisationnel dans lequel elle est déployée. C'est un problème de management, un déficit d'apprentissage, ce qu'on appelle un learning gap. C'est pas une dégénérescence cognitive programmée par la machine. Mais enfin, comment pouvez-vous ignorer l'électroencéphalogramme? La baisse d'activité est bien là, sur l'écran.
Le dissident.
Ah, mais je l'ignore pas, pas du tout. Mais je dis que l'employé dont vous parlez était dans un mauvais cadre d'utilisation. Regardez les données à l'échelle macroscopique, à l'échelle de l'entreprise. Vous connaissez le MIT Nanda?
Oui, bien sûr.
Le dissident. Bon, eux et Gartner, le géant de l'analyse technologique, ont examiné de près plus de 300 déploiements d'IA générative dans de grandes structures.
On parle quand même de 30 à 40 milliards de dollars investis ces dernières années. Le résultat? 95% de ces projets pilotes n'ont produit aucun retour sur investissement mesurable. Zéro. C'est impressionnant.
Le dissident.
Et ça s'arrête pas là. Gartner prévoit l'abandon pur et simple de 40% des projets d'agents IA d'ici la fin de l'année 2027. Et vous pensez que cet échec retentissant est la preuve que notre cerveau va bien? C'est quand même paradoxal, hein.
Le dissident.
Non. Ce que je dis, c'est que ce zéro ROI n'est pas le symptôme de cerveau humain qui fond devant des écrans. C'est le symptôme d'organisations qui s'effondrent parce qu'elles contractent deux dettes structurelles majeures quand elles intègrent mal l'IA.
Lesquelles?
Le dissident. D'abord, la dette de l'agent. L'entreprise installe une IA générique, elle ne la forme pas sur ses données spécifiques, et du coup l'agent produit des choses ultra moyennes sans aucun contexte. Ensuite, il y a la dette de l'équipe. L'entreprise dit à ses employés « utilisez ça pour aller plus vite » sans redéfinir leur rôle. Ce qui mène à la complaisance.
Oui, l'équipe arrête de documenter ses processus, elle perd la mémoire de comment les choses sont faites. L'abandon massif de ces projets, c'est juste une correction naturelle du marché face à une très mauvaise intégration managériale.
Et un manque de contrôle des risques? C'est pas du tout le signe d'un déclin cognitif inévitable de l'espèce humaine. Sauf que ce zéro ROI dont vous parlez, c'est pas juste une perte financière de fin d'année sur un tableau de bord. C'est précisément le symptôme d'une perte d'attention globale. Mais bon, quittons un instant la bureaucratie de Gartner et les tableaux Excel pour regarder la gravité des conséquences sur le terrain.
Allez-y.
Parce que la déqualification ne frappe pas seulement l'employé de bureau distrait qui rate sa réunion. Elle touche des experts hautement qualifiés. Allons dans un bloc opératoire, si vous le voulez bien.
Le dissident.
D'accord, je vous écoute. L'étude publiée en août 2025 dans The Lancet Gastroenterology and Hepatology en est la preuve flagrante. 4 centres d'endoscopie polonais ont adopté une IA pour assister la détection des polypes lors de coloscopie. Le fonctionnement est hyper simple. L'IA analyse l'image en temps réel et entoure les zones suspectes d'un petit cadre coloré sur l'écran.
Le dissident.
Un outil d'assistance visuelle classique. Voilà, des médecins très expérimentés s'en sont servis. Après seulement quelques mois d'exposition à cette assistance, les chercheurs ont mesuré leur performance lorsqu'ils travaillaient soudainement sans l'IA.
Et quel a été le résultat lors du retour à la méthode manuelle?
Leur taux de détection d'adénome est passé de 28,4% à 22,4%.
Ah oui, quand même, ils ont perdu 6 points.
6 points. C'est la première preuve clinique de déqualification causée par l'IA sur un geste critique. Un geste où, soyons clairs, une détection manquée signifie concrètement passer à côté d'un cancer.
Pourquoi?
Parce que l'œil du médecin s'est habitué à ne plus balayer la périphérie de l'écran avec la même intensité.
Le dissident. Il attendait le cadre.
Exactement. Il s'est reposé sur l'attente du petit cadre coloré. Et d'ailleurs, une récente étude de Microsoft, présentée à la conférence la référence mondiale en interaction homme-machine, confirme cette pente dangereuse sur 319 travailleurs du savoir. Ils ont introduit des erreurs subtiles dans les productions de l'IA et ont constaté qu'une confiance aveugle diminue considérablement l'effort critique. C'est le fameux comptable qui valide un bilan sans recalculer les marges. Le mécanisme de cette dette est physiologique, il est comportemental.
Alors j'avoue que c'est un argument percutant.
L'exemple médical est toujours frappant parce que les enjeux sont vitaux. Mais avez-vous envisagé la nature exacte de cette défaillance chez ces médecins ?
L'étude des gastro-entérologues polonais ne nous dit absolument pas que l'IA a détruit leurs neurones ou leur acuité visuelle.
Pas détruit, mais endormi.
Le dissident.
Elle souligne simplement ce qui se passe quand l'humain modifie son propre standard d'exigence. Mélanie Mitchell aborde très précisément ce biais cognitif dans le récent documentaire d'Arte sur la superintelligence.
La chercheuse en intelligence artificielle.
Le dissident.
Oui, exactement. Elle y raconte une anecdote qui illustre parfaitement ce point. Un de ses lecteurs lui a écrit un jour, tout ravi, pour lui dire que ChatGPT lui avait chaudement recommandé de lire son tout dernier livre. Mais il n'arrivait à le trouver dans aucune librairie.
Et pour cause, imagine.
Et pour cause, ce livre n'existait pas.
Le modèle de langage l'avait purement et simplement inventé, avec un titre crédible, un résumé hyper convaincant et un aplomb extraordinaire. L'enseignement de cette histoire, c'est qu'une machine qui affabule avec confiance n'est dangereuse que le jour où plus personne ne vérifie derrière elle.
C'est vrai. Le dissident.
Le problème de ces médecins en Pologne, c'est pas d'avoir regardé un écran assisté par l'IA, c'est d'avoir cessé leur processus de double vérification. Ils ont délégué la responsabilité finale du diagnostic. Et ça, c'est une faute d'architecture de travail, une erreur de protocole, pas une malédiction technologique inévitable.
Mais attendez, soyons pragmatiques un instant.
Si des médecins, qui sont quand même parmi les professionnels les plus entraînés au monde, les plus conscients des enjeux de vie ou de mort, tombent dans ce piège cognitif et perdent des capacités de détection après quelques mois, comment pouvons-nous raisonnablement attendre de travailleurs de l'information traditionnelle de maintenir leur vigilance ?
Le dissident.
C'est une question de cadre. Vous demandez une discipline de fer à des cerveaux qui, comme on l'a vu, sont biologiquement câblés pour économiser de l'énergie. Le confort offert par l'IA agit comme un anesthésiant puissant. C'est très difficile de lutter contre ça.
Le dissident ?
Mais justement, on ne leur demande pas une discipline mentale surhumaine à chaque seconde de la journée. On leur demande d'appliquer des frontières structurelles. Puisque cette complaisance est documentée, comme vous l'avez très bien prouvé avec l'étude du Lancet, la solution c'est de redessiner clairement la frontière.
Entre ce qui relève de la machine et ce qui relève de l'humain. C'est facile à dire.
Le dissident, c'est la règle d'or pour fixer les limites de l'IA aujourd'hui. Il faut instaurer une frontière stricte entre l'exécution et la décision. L'exécution se délègue, d'accord ? Mais la décision ne se délègue jamais.
Et concrètement, ça ressemble à quoi dans une entreprise ? Parce que la théorie, c'est bien, mais en pratique ?
Le dissident, dans le même documentaire, Stuart Russell a eu cette phrase un peu glaçante. Il a dit que si nous laissons les machines faire tout le travail cognitif et décisionnel, nous deviendrions des enfants de milliardaires, des héritiers oisifs, privés de toute raison d'apprendre, de lutter ou d'accomplir quoi que ce soit. C'est son pire scénario.
Pire que l'extinction fulgurante ?
Bien pire encore. Pour éviter ce syndrome de l'enfant de milliardaire, il faut tracer une ligne noire sur blanc.
L'IA peut trier des centaines de demandes entrantes, préparer une synthèse complexe de 50 pages, rédiger l'historique d'un client ou relancer un devis impayé. Ça, c'est de l'exécution pure. Ok, le dissident. Mais l'humain doit garder le monopole absolu de la décision. C'est lui qui va accorder un geste commercial exceptionnel, fixer un prix final, trancher un litige délicat ou décider de recruter un candidat. L'agent exécute le débroussaillage et propose. Mais l'humain tranche. Si cette frontière est respectée de manière stricte, l'atrophie n'a pas lieu d'être, car le jugement de l'humain reste puissamment sollicité.
Je vois pourquoi vous pensez cela et franchement, la théorie est séduisante. Mais laissez-moi vous donner une autre perspective sur cette prétendue frontière étanche entre exécution et décision. En réalité, cette ligne, elle est incroyablement poreuse. Vous séparez l'exécution de la décision comme si elle vivait dans deux mondes parallèles.
Or, c'est justement la friction de l'exécution quotidienne qui forge la finesse du jugement. Le dissident.
C'est-à-dire, comment ça ?
Permettez-moi une analogie. Imaginez un chef d'orchestre. Son rôle est de décider. Il choisit le tempo, les nuances de la symphonie, l'interprétation de l'œuvre. C'est de la décision pure. On est d'accord là-dessus ?
Absolument.
Mais s'il a jamais joué d'un instrument dans sa jeunesse, s'il a jamais fait ses gammes, s'il connaît pas la difficulté technique et physique de souffler dans un hautbois ou de frotter les cordes d'un violoncelle, comment il peut juger si l'orchestre sonne juste ?
Je vois où vous voulez en venir. Comment son oreille peut-elle capter la petite erreur subtile dans la section des cuivres ?
Si nous déléguons absolument toute l'exécution de base, comme l'analyse primaire des données financières ou la rédaction initiale des contrats, l'humain arrive au moment fatidique de la décision sans aucun contexte viscéral.
Mmh.
Il manipule plus la matière première de son métier. À terme, son jugement s'évapore, tout simplement parce qu'il est coupé du réel, de l'exécution.
J'aime beaucoup votre métaphore du chef d'orchestre, elle est très poétique. Mais permettez-moi de la retourner contre votre propre argument. Un chef d'orchestre d'exception, pendant la représentation d'une symphonie, il ne s'excuse pas à jouer du violon lui-même.
C'est sûr.
S'il jouait du violon, il serait bien incapable d'entendre les cuivres ou les percussions. Il interagit avec la musique, oui, mais à un niveau supérieur. Il garde une vue d'ensemble. Et c'est précisément là qu'intervient la notion de maintien du contrôle humain opérationnel. Une notion si cruciale que le législateur s'en est d'ailleurs emparé. L'EA Act européen en a fait un pilier central de sa législation, bien avant que le marché ne s'autorégule.
Vous parlez de la réglementation européenne sur l'IA, mais en quoi une loi empêche le cerveau de s'atrophier? C'est pas une loi qui va stimuler mes neurones?
Le dissident. Parce que c'est pas juste un texte juridique, c'est une exigence de design logiciel. L'EA Act exige une supervision humaine effective des systèmes à haut risque. Ça veut pas dire qu'un humain doit juste signer en bas d'une page pour valider l'action de l'IA. Ça impose une architecture technique. Un système IA doit être conçu pour être journalisé, réversible et débranchable.
Qu'entendez-vous exactement par « réversible » dans ce contexte?
Le dissident. Ça veut dire que si une IA refuse un prêt bancaire à un client, par exemple, le système doit permettre à l'humain de rembobiner la décision. Chaque chiffre doit pouvoir remonter à sa source initiale. L'arbre de décision de la machine doit être totalement lisible. Le fameux bouton « stop » ou « d'annulation » n'est pas juste une prise au mire qu'on arrache en cas de panique. D'accord? Le dissident.
C'est une exigence conceptuelle, intégrée par design. C'est cette architecture technique de transparence qui permet au chef d'orchestre de relire la partition à tout moment. Ceux qui vendent de l'IA générative sans cette réversibilité totale ne vendent pas de la technologie avancée, ils vendent de l'irresponsabilité.
Écoutez, je suis toujours pas convaincu par ce raisonnement. Parce que vous confondez encore l'architecture logicielle avec la pratique cognitive humaine. Que le système soit débranchable par conception selon l'IA Act, c'est essentiel sur le plan juridique et éthique, je vous l'accorde volontiers.
C'est déjà une base solide.
Oui, mais soyons honnêtes, un bouton stop qu'on presse jamais, un journal d'activité qu'on lit jamais parce qu'on manque de temps, ça prévient absolument pas la dette cognitive. Ce qui maintient l'esprit humain affûté, c'est pas la simple capacité de pouvoir superviser, c'est de s'obliger à le faire à travers un exercice actif. L'intégration réussie de l'IA nécessite ce que j'appelle une friction artificielle.
Le dissident ? Une friction artificielle ? C'est intéressant comme concept. Comment vous mettez ça en pratique?
Eh bien, il faut dédier consciemment une partie de sa journée à la critique de l'outil. Disons, se programmer 10 minutes par jour, comme un rituel, pour relire scrupuleusement, auditer et corriger l'agent IA. Prendre la proposition de l'IA et ajuster le ton d'une réponse client pour la rendre plus empathique. Rectifier une micro-erreur de tarification qu'elle aurait laissé passer. Repérer les moments où la nuance humaine manquait cruellement. Le dissident. Une révision active. C'est cela, faire répéter l'IA comme un chef d'orchestre, faire répéter ses musiciens avant le concert. C'est un engagement critique, actif et musculaire. Si vous ne mettez pas les mains dans la boue de la donnée pour corriger la machine au quotidien, vous ne la supervisez pas, vous la subissez. Et c'est exactement là que le groupe d'écrivains du MIT a échoué. Ils ont validé passivement au lieu de corriger activement. Cet effort doit être délibérément maintenu.
Je dois admettre que sur l'importance vitale de la correction comme exercice cognitif quotidien, on se rejoint totalement. D'ailleurs, les professionnels de terrain qui accompagnent la transformation numérique des entreprises, comme Philippe Trantot, le fondateur de l'agence WhatEasy, ils l'observent dans chaque PME. C'est-à-dire ?
Un agent IA qu'on prend le temps de corriger rend paradoxalement l'équipe plus attentive à son propre métier.
La machine s'améliore et l'humain révise ses propres standards. Mais il y a un prérequis à cela. Pour avoir l'énergie mentale et le temps de consacrer ces 10 minutes de correction pointue dont vous parlez, il faut justement commencer par déléguer les bonnes tâches à l'IA. Et quelles sont ces bonnes tâches selon vous?
Le dissident, il faut déléguer ce qui déshumanise en premier. Les tâches sans aucune valeur cognitive. Le standard téléphonique de niveau 1 qui sonne à 23 heures. Les relances d'un payé standardisé à la chaîne. La ressaisie fastidieuse d'une facture d'un logiciel A vers un logiciel B.
Oui, les tâches répétitives.
Exactement. Personne ne s'accomplit intellectuellement dans ces tâches-là. Absolument personne ne subit d'atrophie cérébrale grave en perdant la tâche de copier-coller une adresse postale. On ne perd pas une compétence quand on subissait une aliénation. Au contraire.
Je vous accorde ce point.
Organisationnel idéal.
Dans le meilleur des mondes, oui, le temps gagné sur l'aliénation serait réinvesti dans la supervision critique. Mais la réalité des chiffres, les données comportementales un peu têtues, nous montrent que cette discipline échoue massivement dans la pratique.
Le dissident.
C'est là que nos avis divergent, oui. Car quand on observe ces 83% de personnes incapables de se souvenir d'un texte qu'ils ont soi-disant coécrit, ou ces 95% de pilotes d'entreprise sans aucun retour sur investissement parce que l'intégration a été bâclée, ça dessine le tableau clinique d'un affaissement global de l'attention.
Le dissident.
Je vois ça différemment. Je maintiens donc fermement ma position initiale. Vadette cognitive obéit à une loi physiologique fondamentale liée à l'économie d'énergie de notre cerveau. Déléguer un acte intellectuel n'est jamais neutre. Pour préserver nos capacités face à la puissance de l'IA, on doit introduire cette friction artificielle, cet effort quotidien délibéré. Si on baisse la garde et qu'on laisse la machine nous bercer avec ses réponses prêtes à l'emploi et son interface ultra-fluide, notre muscle cognitif va s'atrophier irrémédiablement au contact de ce confort absolu. L'outil est certes puissant, mais le prix de cette puissance, c'est une lutte acharnée contre notre propre biologie qui cherchera toujours la facilité. Le dissident. Et moi, je continuerai de soutenir avec autant de conviction que cette déqualification terrifiante que vous redoutez n'est que la rançon d'une abdication managériale, pas une fatalité neurologique. Le véritable problème, c'est pas le confort biologique, c'est l'absence de cadre de travail rigoureux. C'est une question de frontière pour vous.
Le dissident. Totalement. En traçant des frontières inflexibles, gravées dans le marbre de la culture d'entreprise, entre l'exécution machinique et la décision purement humaine, on reprend les rênes, en exigeant, en parfait accord avec l'esprit de l'AI Act, des systèmes technologiques qui sont traçables, réversibles et auditables par design. On préserve notre maîtrise intellectuelle. La technologie n'atrophie l'esprit que de ceux qui acceptent de fermer les yeux.
De valider sans lire.
Et de donner les clés de la maison à la machine sans garder le double. L'IA n'est finalement qu'un miroir grossissant de nos propres processus. Si une entreprise ou même un individu ne sait plus pourquoi il fait les choses, l'agent IA va simplement exécuter ce grand vide de sens à très grande échelle.
Nos diagnostics diffèrent assurément sur la racine exacte du mal, que ce soit la biologie de l'attention d'un côté ou la structure du management de l'autre. Cependant, je crois que nous convergeons pleinement sur la nature du véritable péril de notre époque.
Le dissident.
Ah oui, tout à fait. Le risque urgent, le vrai danger de l'intelligence artificielle, c'est pas une extinction fulgurante de l'humanité par une super-intelligence hostile digne d'un scénario hollywoodien.
Le dissident. Heureusement d'ailleurs.
C'est clair. C'est bien cet effacement progressif, silencieux, indétectable au jour le jour, de la compétence humaine au sein de nos processus les plus vitaux.
Absolument. On est parfaitement d'accord sur ce constat.
La perte de prise, la véritable dépossession, elle est là, aujourd'hui. Elle est en train de s'opérer dans nos open space, dans nos boîtes mail, et même, on l'a vu, dans les salles de nos hôpitaux. Il est devenu vital, non seulement pour chaque organisation, mais pour chaque individu, de scruter avec une exigence renouvelée la ligne de démarcation de ses propres délégations technologiques. Qu'est-ce qu'on délègue et qu'est-ce qu'on garde ?
Le dissident.
Exactement. Qu'est-ce que je confie à la machine et qu'est-ce que je garde précieusement pour moi ? C'est à ce prix, et seulement à ce prix, qu'on évitera de devenir les enfants gâtés, distraits et ultimement inutiles d'un monde hyper-automatisé.
Ce sera notre mot de la fin. Nous vous laissons le soin d'évaluer l'ampleur de votre propre dette cognitive dans votre quotidien. Sur quelles tâches avez-vous déjà cédé du terrain ? Parce qu'en fin de compte, quand viendra l'heure de retirer le plâtre technologique de votre esprit face à un problème inédit, ce sera à vous et à vous seul de constater la force qu'il reste à ce muscle intellectuel pour affronter le réel.
Il y a encore beaucoup à explorer sur le sujet. La discussion reste ouverte. À très bientôt dans The Debate.